Je suis conseiller national d'Amnesty International pour la région PACA et je vous propose une émission sur les droits humains et l'action d'Amnesty pour le respect de ces droits. Cette émission s'appelle « Pour la dignité ». Tous les derniers lundis de chaque mois, de 16h30 à 17h30 sur Fréquence Mistral 99.3.
Sur Fréquence Mistral 99.3. Et bonjour Régis.
Bonjour Odile, bonjour à tous.
Un retour à la dignité.
Oui, un retour à la dignité. Et puis on va beaucoup parler de personnes bien précises, hein, puisque on va voir notre opération mondiale les 10 jours pour signer, qui concerne 10 cas bien précis un peu partout dans le monde. Mais avant cela, on va parler de rencontres que nous allons faire. La première, c'est celle d'Antoinette Chahine, que nous connaissons tous puisqu'elle est déjà venue rendre visite au groupe de Digne plusieurs fois. Hein. Elle a été reçue par la mairie, elle a reçu la médaille de la ville. Antoinette Chahine, c'est une militante abolitionniste libanaise. Et elle va arriver ce soir et puis demain, donc, elle intervient au lycée Alexandra Davinel. À midi, elle mange avec le groupe dinois d'Amnesty International. Et puis l'après-midi, elle intervient au lycée Pierre-Gilles de Gênes. Voilà. Ensuite, elle repart parce qu'elle a un programme chargé. Elle est venue pour une semaine. Aujourd'hui, elle est à Pertuis cet après-midi, dans des classes du lycée Val-de-Durance. Ensuite, donc, demain à Digne, mercredi à Avignon, ensuite à Marseille. Le jeudi, elle est à Aix-en-Provence. Elle va témoigner à l'Institut humanitaire international de la faculté de droit. Et le vendredi 3 décembre, elle sera à Carpentras, puisqu'il y a une cérémonie avec la mairie de Carpentras, dans le cadre de ce qu'on appelle « Ville pour la vie »,« Ville contre la peine de mort ». Un bâtiment sera illuminé et une conférence aura lieu à Carpentras à 18h30 avec son témoignage. Voilà, donc un programme très chargé. Puis après, elle retourne au Liban, dans ce pays meurtri en ce moment, dont on ne voit pas pour l'instant l'issue. Je pense qu'elle nous en parlera. Alors, pour parler d'Antoinette Chahine, elle a écrit un livre qui s'appelle « Crime d'innocence », où elle raconte un petit peu le drame qu'a été son accusation, sa condamnation à mort pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Et puis l'action aussi d'Amnesty International pour sa libération, hein, ce qu'on a réussi à obtenir en 1999. Voilà, alors je vais peut-être vous lire un extrait de son livre qui en fait est la postface, qui a été écrit par Simone Otmani Lelouch, qui est la femme d'un grand défenseur des droits humains, Monsieur Otmani, qui était un défenseur qui a subi la prison, la torture en Tunisie et qui ensuite a été soutenu par Amnesty, a rejoint Amnesty puisqu'elle a été responsable lui aussi du Proche-Orient. Donc sa femme aussi très engagée à Amnesty puisqu'elle travaillait pour Amnesty a écrit une postface au livre d'Antoinette qui s'appelle « Crime d'innocence ». En 1995, Antoinette Chahine était pour moi un dossier que nous essayons de défendre à Amnesty International. En tant que responsable du Proche-Orient à la section française, j'envoyais au secrétariat international de Londres les terribles informations sur cette jeune femme arrêtée et violemment torturée. Nous ne savions pas à l'époque qu'elle était innocente du crime dont elle était accusée. Nous ne savions pas grand-chose sur son cas, mais j'avais été alerté au sujet des tortures odieuses qu'elle était en train de subir et j'ai immédiatement prévenu notre secrétariat. Alors nous avons enquêté. Un observateur a assisté à son procès en février 1997, un procès inique qui prononça la peine de mort. Il était devenu clair que nous devions faire en sorte que l'opinion internationale soit informée de l'iniquité de ce procès et se mobilise pour exiger sa révision. En entendant ce verdict, Antoinette s'évanouit et resta muette et paralysée durant quelques mois. Un rapport est rendu public par Amnesty, Antoinette Chahine, torture et procès inique. Elle est emprisonnée dans la prison des femmes de Baadba. En face de chaque nom de prisonnière, on avait écrit la sentence et le reste du temps d'incarcération. Sous le nom d'Antoinette, il y avait un simple tiret. Grâce à la mobilisation des membres d'Amnesty International et des membres de l'ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, des milliers de lettres parviennent de partout aux autorités et à Antoinette, de France, de Chine, du Sri Lanka, du Japon, du Maroc, etc. Et la décision de réviser le procès est prise. En juin 1999, Antoinette Chahine est acquittée et libérée. Sortir de prison n'est pas la fin de l'histoire. Ceux qui ont eu l'expérience de la prison le savent bien. Il faut réapprendre à vivre. Et c'est 2 ans après, à Strasbourg, en 2001, où elle est invitée par l'association Ensemble contre la peine de mort à témoigner pour la première fois devant le premier congrès mondial contre la peine de mort, en juin 2001, qu'Antoinette entreprend son retour vers la vie. Le 21 juin, elle témoignait au Conseil de l'Europe avec d'autres personnes, comme Sakamanda Kérikoul, le petit-fils des époux Rosenberg. Un moment très fort de ce congrès. Antoinette rencontre alors d'autres condamnés à mort, innocents comme elle ou coupables, et ce court séjour lui a ouvert les portes du monde. Elle rencontre les militants d'un groupe près de Strasbourg qui avait pris son cas en charge. Ce sont les premières retrouvailles des militants anonymes. Ce fut aussi la rencontre avec des personnalités, Badinter, ancien ministre de la Justice sous François Mitterrand, qui a aboli la peine de mort en France, Michel Taube, président d'Ensemble contre la peine de mort, Denis Robillard, qui était alors président de la section française, le président du comité exécutif international d'Amnesty, le président de Pénal Réforme Internationale, Ahmed Otmani, et bien d'autres rencontres de personnalités comme Angela Davis, avec laquelle elle va se retrouver au premier rang d'une grande manifestation contre la peine de mort à Strasbourg. Dans ces rencontres très émouvantes, elle a réussi à surmonter d'évidentes difficultés personnelles et à instaurer des rapports profonds avec tous, si bien qu'aucune de ces personnes n'a pu se détacher de l'histoire d'Antoinette une fois connue. Et ça continue ainsi, donc elle a commencé en 2001, et de nos jours, elle continue inlassablement à parcourir le monde pour dénoncer la torture et la peine de mort, parce qu'elle a vécu ces atrocités et cette condamnation. Elle était d'ailleurs à Paris, invitée au Panthéon pour le 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort en France. Et donc elle revient à nouveau en France pour témoigner toujours inlassablement contre la peine de mort et la torture. On va écouter donc maintenant une chanson libanaise.
بحقلك وطنك دينك لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني بطل السلم وبطل الحرب همسة وصل الشرق الغرب تضل تحب وتنحب بيكفي إنك لبناني
والإيدين عليك الدل
ce pays-là qui vit des moments extrêmement difficiles, hein, mais avec des jeunes qui manifestaient de toutes les communautés, même s'il y en a 18 différentes. Ils manifestaient tous ensemble en 2019. Et puis, il y a eu cette explosion dans le port de Beyrouth. Et puis, il y a eu aussi la crise sanitaire. Mais ils dénonçaient les pouvoirs politiques de tous bords, corrompus et qui ont détourné l'argent qui devait servir à investir pour ce pays qui est maintenant en ruine. Et puis, en même temps, il y a une force dans cette jeunesse. Souvent, ils sont arrivés à se redresser. Espérons qu'ils trouveront un chemin pour retrouver un pays un peu plus prospère et démocratique. Voilà, on va maintenant parler des 10 jours pour signer. Alors, les 10 jours pour signer ont 20 ans. C'est une opération, en fait, qui a été lancée par Amnesty International Pologne. Le 10 décembre 2001, des militants de ce pays, révoltés par les violations des droits humains à travers le monde, décident de mener une action d'envergure. Durant 24 heures, ils écrivent 2000 lettres en faveur d'hommes et de femmes en danger et les envoient au gouvernement des États responsables de ces injustices. L'événement sera repris mondialement. L'esprit des 10 jours pour signer était né. Depuis chaque année, autour de la Journée internationale des droits de l'homme, qui a lieu le 10 décembre, des millions de personnes se battent contre l'injustice partout dans le monde, avec la ferme conviction qu'une lettre, une signature ou un message sur les réseaux sociaux peuvent changer les choses. Ces hommes et ces femmes se mobilisent pour mettre fin aux violations des droits humains et pour montrer leur solidarité avec celles et ceux dont les droits sont bafoués. Alors ici à Digne, nous allons faire les 10 jours pour signer dans les 3 lycées de Digne. Et puis, le samedi 11 décembre, nous serons à la médiathèque de Digne de 10h à 17h, aux heures d'ouverture, pour proposer aux gens de signer des pétitions, d'envoyer des cartes, des messages d'espoir pour les personnes injustement emprisonnées ou dont les droits sont bafoués. Voilà. Alors, avant de vous parler des 10 cas de cette année, on fait un retour en arrière sur les cas de l'année dernière. Nous étions aussi à la médiathèque et nous avions fait signer pour ces personnes. Alors, parmi ces cas, on a eu de grandes réussites et puis des améliorations. Alors, on avait écrit pour Janie Silva en Colombie et sa situation a évolué positivement, puisque l'unité nationale de protection du ministère de l'Intérieur de la Colombie a mis en place des mesures de protection individuelle pour elle. Cependant, elle subit encore des pressions pour son travail de défense de l'environnement et Amnesty International continue à surveiller si ces mesures sont efficaces et à demander des mesures de protection collective. Janie a adressé ces mots aux personnes qui ont agi pour elle. « Du fond du cœur, je peux dire que cette campagne, des 10 jours pour signer, m'a permis de rester en vie. C'est ce qui les a empêchés de me tuer. » Car ils savaient que vous étiez là. Et ça, souvent, on nous le dit, le fait d'être soutenu par Amnesty est une protection pour les défenseurs des droits humains. Ensuite, on avait défendu un groupe de solidarité LGBTI en Turquie, qui organisait chaque année depuis 2011 une marche des fiertés. En mai 2019, l'université interdit la marche et fait disperser un sit-in pacifique par la police utilisant du gaz lacrymogène et des ballons caoutchouc. Contre toute évidence, 18 étudiants et un enseignant ont été poursuivis en justice pour avoir pris part à un rassemblement illégal. Ils risquaient jusqu'à 3 ans de prison. Le 8 octobre 2021, les membres du groupe Solidarité LGBTI sont acquittés. Une victoire qui n'aurait pas été possible sans les 445 000 personnes qui se sont mobilisées dans le monde entier en signant notre pétition. Un des membres du groupe nous a écrit: nous voulons remercier toutes les personnes qui ont participé à la campagne et qui nous ont témoigné leur solidarité. On a aussi défendu Germain Rucuri au Burundi parce qu'il militait notamment pour l'abolition de la torture. Il avait été incarcéré en juillet 2017 et reconnu coupable de fausses accusations comme rébellion et atteinte à la sécurité de l'État. En juin 2021, la peine de prison de 32 ans de Germain est réduite à 1 an. Après 4 ans de prison, il a enfin retrouvé sa famille, dont son plus jeune fils de 4 ans qu'il ne connaissait pas. La mobilisation internationale a compté. Rien qu'en France, vous avez été près de 50 000 à signer notre pétition. Et il nous a écrit: veuillez recevoir nos sincères remerciements pour toutes ces actions de soutien moral et de solidarité que vous avez menée sans relâche pour nous depuis le début de l'arrestation injuste de mon époux. » C'est l'épouse donc de Jamin Rukuki qui nous avait écrit. Voilà, et puis il y a encore d'autres exemples. Au Myanmar, après une forte mobilisation, Peng Fio Ming a été libéré le 17 avril 2020 à la suite d'une grâce présidentielle. Et il nous dit, son père nous dit, « En tant que père, je voulais vous remercier énormément pour avoir aidé mon fils. » On nous demandait aussi une enquête sur le meurtre de Popo et Bongeka en Afrique du Sud. Le commissaire de division adjoint de la police et le directeur national des services d'enquête étaient présents lors de la réunion que nous avons organisée. Nous les rencontrerons à nouveau le 13 avril afin qu'ils nous informent de leurs conclusions et des suites menées sur l'enquête de police qui est enfin engagée. En Algérie, Khaled Rahreni a obtenu une grâce présidentielle. Une bonne nouvelle, cependant, il a été libéré de façon provisoire et il attend un nouveau procès. C'est un journaliste indépendant qui couvrait des manifestations du mouvement Irak. Donc on va suivre son cas. Et puis on avait Idriss Katak au Pakistan, qui travaillait notamment pour Amnesty International sur les disparitions forcées. Suite à des mois de campagne et aux appels publics de sa fille, les autorités ont reconnu le détenir. Il est passible de la peine de mort. Après une action urgente, la police a fini par avouer qu'elle le retenait. En novembre 2020, la police a permis à sa fille de lui rendre visite pour la première fois. Voilà, donc il y a une évolution. On sait où il est. Sa fille peut le rencontrer, mais il est toujours sous la menace, grave menace de condamnation, et on va suivre encore son cas. Voilà, on va maintenant écouter une très belle chanson, Une sorcière comme une autre.
Comme les autres.
Comme les autres, pardon.
D'Anne Sylvestre, mais chantée par deux jeunes femmes.
Deux jeunes femmes qui la chantent très bien.
S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous y morcelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières, les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur, ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang, qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suivrai, je vous prie, ne m'inventez pas. Vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimée servante, m'avez voulu ignorante.
Forte, vous me combattiez.
Faible, vous me méprisiez.
Vous m'avez aimée putain et couverte de satin.
Vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue.
Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut.
Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus.
Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux.
Me voilà comme une église, toute la honte dessous.
J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu,
l'incendie aussi, je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière.
J'étais le sol sous vos pas, et je ne le savais pas.
Mais un jour la terre s'ouvre, et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague, de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyés. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi.
Et si l'ancêtre ou bien l'enfant,
celle qui sait d'où se défend,
c'est Gabrielle ou bien Eva,
fille d'amour ou de combat. Et c'est mon cœur ou bien le leur,
celle qui est dans son printemps,
celle que personne n'attend.
Et si la moche ou bien la belle,
fille de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère
ou la vôtre,
une sorcière comme les autres.
S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger.
Que c'est beau.
Oui, extraordinaire chanson, hommage aux femmes qui sont souvent devant. Et on le voit là dans les 10 cas que nous avons choisis cette année, eh ben, il y a 6 femmes. Et à Amnesty, il y a énormément de femmes qui militent. Voilà. Donc, je vais vous présenter un peu les cas. Et je vous invite à venir le samedi 11 décembre, dans le grand couloir de la médiathèque de Digne, à venir signer nos pétitions et envoyer nos cartes de soutien pour ces personnes. Donc, si jamais vous ne pouvez pas venir le samedi 11 décembre à la médiathèque, vous pouvez, à partir du 4 décembre, aller sur le site amnesty.fr pour participer en ligne à ce grand mouvement mondial de défense des droits humains. Alors, nous allons nous battre cette année pour Wendy Galarza, qui est une Mexicaine qui est victime de violences policières pour avoir manifesté contre les féminicides. Elle était d'ailleurs à Paris le 25 novembre, au défilé organisé avec Amnesty International. Voilà. Donc c'est une éducatrice de jeunes enfants passionnée par son métier et une défenseuse des droits des femmes qui vit à Cancun, au Mexique. Elle est convaincue que l'éducation est la clé pour créer un monde plus juste. Cet objectif, Wendy travaille dur dans le contexte mexicain où les femmes sont souvent humiliées, agressées ou tuées parce qu'elles sont des femmes. En tant que militante féministe, elle aussi a failli perdre la vie pour avoir dénoncé ces violences. En effet, le 9 novembre 2020, Wendy participait à une manifestation organisée par des collectifs féministes pour réclamer justice après le meurtre d'une femme connue sous le nom d'Alexis. Lorsqu'un groupe de manifestants a commencé à arracher et incendier des barrières, la police a tiré à balles réelles en l'air et, selon des témoignages, en direction de la foule aussi. Wendy a été blessée par balles au niveau de la jambe et de l'entrejambe. L'histoire de Wendy est loin d'être un cas isolé. Elle fait écho à ce que subissent de nombreuses défenseurs des droits des femmes au Mexique lorsqu'elles descendent dans la rue pour réclamer justice pour les femmes victimes de violences dans le pays. Elle ne se laisse pas abattre. Elle a fondé un collectif avec d'autres femmes, agressées également lors de la manifestation. Je continuerai d'élever la voix et de défendre mes droits fondamentaux et ceux de mes partenaires dans cette lutte. Voilà, donc on va demander une enquête rapide, impartiale, exhaustive, sur les violations des droits humains dont Wendy Galarza a été victime, et puis de garantir que toutes les personnes soupçonnées d'avoir une responsabilité pénale soient traduites en justice. Et enfin, il faut lui accorder des réparations adaptées. Voilà, nous allons aussi écrire pour Bernardo Cal Sol, au Guatemala, qui est emprisonné pour avoir défendu les droits des peuples autochtones. Il a consacré sa vie à l'enseignement et aux activités syndicales. Il se donnait pour mission que son peuple, le peuple Maya Kechi, du centre nord du Guatemala, soit en capacité de défendre ses droits. Il a également fait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger de manière pacifique son territoire et ses ressources naturelles contre le pillage et la perte de la biodiversité. Tout cela au risque de sa vie, car le Guatemala compte parmi les pays les plus dangereux au monde pour les personnes qui défendent les droits à la terre, au territoire et à l'environnement. En 2015, Bernardo et son peuple ont protesté contre l'entreprise OXEC, bénéficiant d'une autorisation du gouvernement à ériger un barrage sur le fleuve Cahabon en vue de construire deux centrales hydroélectriques. Ce fleuve, situé sur le territoire du peuple Maya, est l'un des plus longs du Guatemala et il est sacré pour ses communautés. La construction des centrales électriques les avait déjà privés d'une partie de leur forêt. Ce nouveau projet allait maintenant limiter leur accès à l'eau. Donc il a engagé plusieurs recours en justice contre le projet. Et en 2017, la Cour constitutionnelle a reconnu que le droit des communautés autochtones à la consultation préalable, libre et éclairée, avait été bafoué. Cependant, les actions de Bernardo l'ont mis en désaccord avec l'entreprise et avec les élites politiques et économiques. Il a fait l'objet d'une campagne de dénigrement, émaillée de diverses accusations sans fondement. En 2018, un tribunal l'a condamné à plus de 7 ans de prison, le déclarant coupable, sans la moindre preuve, de détention illégale avec circonstances aggravantes et de vol aggravé. Bernardo a déclaré « Pourquoi je suis en prison ? Parce que j'ai dénoncé ce qu'ils font au fleuve. J'ai défendu le peu qu'il restait. » Donc nous allons demander de le libérer immédiatement et sans condition, de promouvoir et protéger les droits à la liberté d'expression et de réunion et veiller à ce que les défenseurs des droits humains puissent poursuivre leur travail fondamental librement et sans s'exposer à des risques au Guatemala. Nous allons également défendre en Égypte Mohamed El Bakr, qui est détenu arbitrairement et torturé pour avoir défendu les droits humains. C'est un amateur de football, il aime également le squash, la moto, la natation et le basket. Lui-même nubien, Mohamed El Bakr apprécie la musique et la culture de ce peuple autochtone. Mais aujourd'hui, cet avocat spécialisé dans la défense des droits humains ne peut que rêver des choses qu'il aime. Il est en prison pour avoir défendu des personnes qui subissent des violations de leurs droits en Égypte. L'arrestation de Mohamed en 2019 s'est produite dans un contexte de répression systématique menée contre les voix discordantes depuis 2014 en Égypte. Des milliers de manifestants pacifiques, de militants de l'opposition et de défenseurs des droits humains ont été arrêtés par les forces de sécurité égyptiennes dans le but de faire taire les critiques et d'empêcher d'autres manifestations. En prison, les autorités ont fait preuve d'une cruauté à de nombreuses reprises. Elles ne l'ont pas autorisé à voir son père mourant. Elles l'ont maintenu dans une cellule exiguë insalubre. Elles l'ont privé de lit, de matelas, d'eau chaude, d'exercices en plein air et même de photos de sa famille. Et pourtant, Mohamed El Bakr garde espoir. Un jour, nous poursuivrons notre travail afin d'établir des sociétés libres. Voilà, donc on va demander la libération de ce défenseur. Et puis, en attendant cette libération, de faire en sorte qu'il soit détenu dans des conditions dignes et conformes au droit international et révoquer la décision d'inscrire son nom sur la liste des terroristes, alors que c'est un défenseur des droits humains. Voilà, et donc c'est le nombre de vos signatures, de vos courriers qui pèsera dans la balance et fera que son sort s'améliorera, on espère. On va aussi défendre Jana Jihad, qui est harcelée et menacée de mort pour exercer son métier de journaliste. Elle a été reconnue comme la plus jeune journaliste mondiale. En effet, c'est une enfant qui aimerait simplement jouer au football avec ses amis sans recevoir une pluie de grenades de gaz lacrymogène. Elle est en Israël et territoire occupé. Hein. Mais Jana, 15 ans, vit à Nabi Saleh, en Cisjordanie occupée par Israël. Et une vie sous le signe de discrimination systématique n'a rien d'une vie normale. Jana avait 7 ans lorsque l'armée israélienne a tué son oncle. Avec le téléphone de sa mère, elle a filmé les exactions commises par les forces israéliennes à l'égard de sa communauté pour l'exposer au regard du monde entier. Vous voyez qu'elle a commencé très jeune sa vocation de journaliste. À 13 ans, elle a été reconnue comme une des plus jeunes journalistes du monde pour son travail d'information sur la répression violente que l'armée israélienne inflige aux Palestiniens, qui se solde souvent par des morts. Aujourd'hui, en raison de son travail reconnu de journaliste, Jana est harcelée de la part des autorités israéliennes et a subi des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Son droit à la liberté d'expression et son droit de réunion pacifique, ainsi que son droit à l'éducation, sont constamment menacés. Elle ne baissera pas les bras. « Je veux connaître la liberté, la justice, la paix et l'équité et une vie exempte de racisme sur ma terre natale. » Donc voilà, on demandera aux autorités israéliennes de mettre fin à la discrimination et au harcèlement exercé contre Jana, étendre les protections en vertu de la Convention relative aux droits de l'enfant aux enfants palestiniens des territoires occupés comme Jana, et de mettre fin aux graves discriminations systématiques. Il y a une carte aussi que vous pourrez remplir et envoyer si vous venez le samedi 11 décembre à la médiathèque de Digne, de 10h à 17h. Et puis on va soutenir une ONG en Ukraine, l'ONG Sphère. C'est une ONG qui défend les droits des femmes et des personnes LGBTI depuis 2006. Et elle compte parmi les plus anciennes organisations du pays dans ce domaine. Fondée par les militantes Anna Charina et Vira Tchernina, l'organisation offre un espace protégé aux femmes et aux personnes LGBTI dans la deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv. Les groupes prenant pour cible les personnes LGBTI prolifèrent à travers le pays et Sphère subit des attaques discriminatoires à répétition. Ces groupes s'en prennent aux sympathisants de l'organisation et dégradent leurs locaux en urinant sur les murs. À chaque incident, Anna et Vira portent plainte auprès de la police, mais en Ukraine, les auteurs de ces attaques jouissent d'une impunité quasi totale. En 2019, Sphère a organisé la première marche des fiertés de l'histoire de Kharkiv. Malgré les menaces et les tentatives d'intimidation, l'organisation a réussi à faire de l'événement un immense succès en réunissant près de 3000 participantes et participants. Cependant, les agents de police n'ont pas protégé efficacement les manifestants contre les violences et ont au contraire eux-mêmes lancé des insultes homophobes. Anna et Vira ont affirmé qu'en raison de l'inaction de la police, face aux attaques constantes, les membres de Sphère et leurs sympathisants vivent dans un état de peur permanente. « Je veux que nos agresseurs rendent des comptes, comme le prévoit la législation », a déclaré Anna. Voilà, donc on va demander à l'Ukraine de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les auteurs des attaques contre l'ONG Sphère soient identifiés et rendent des comptes, s'assurer que le motif discriminatoire des attaques soit bien pris en considération, et soutenir et protéger les droits des LGBTI ainsi que de condamner les violences perpétrées envers Sphère et les personnes LGBTI à Kharkiv. Voilà les 5 premiers cas de notre campagne. Je viens de vous les présenter. On va écouter maintenant l'hymne des femmes.
Les femmes, nous sommes le continent noir de pauvres esclaves et brisons nos entraves debout, debout, debout. Asservies, humiliées, les femmes achetées, vendues. Esclaves et brisons nos
Voilà, je vous présente les 5 autres cas de la campagne 10 jours pour signer. Et je vous demande de venir à la médiathèque le samedi 11 décembre de 10h à 17h pour agir pour ces personnes dont les droits ne sont pas respectés. Alors, la sixième personne, c'est un très jeune, Mikita Zalataru, qui habite la Biélorussie, dont on a parlé, dont on parle tous les jours. Hein. Voilà, donc, ça a commencé pour lui en août 2020, raconte son père, quand ce dernier attendait un ami sur la place principale de la ville de Homel, dans le sud-est de la Biélorussie. Non loin de là, des gens manifestaient, pacifiquement pour la plupart, contre les résultats de la récente élection du président Alexandre Loukachenko, et la police est intervenue. D'après le père de Mikita, quand la foule a commencé à courir, quelqu'un a dit à son fils d'en faire autant, ce qu'il a fait. Le lendemain, le 11 août, des policiers se sont présentés chez Mikita, ils l'ont arrêté, placé au centre de détention provisoire, et accusé d'avoir lancé un cocktail Molotov sur deux policiers le soir précédent. Il a toujours réfuté ses accusations. Pendant la garde à vue, des policiers l'ont frappé avec une matraque électrique. Ils l'ont interrogé sans la présence d'un avocat ou d'un représentant légal, bafouant son droit à un procès équitable, puis l'ont enfermé pendant 6 mois avant de le traduire en justice. Tous ces actes cruels constituent de graves violations des normes relatives au traitement des enfants en détention. Mikita a été déclaré coupable de troubles à l'ordre public et d'utilisation d'explosifs illégaux. Pourtant, les vidéos des faits ne montrent pas qu'il ait participé à des violences. Les médias qui ont couvert les manifestations n'ont pas mentionné de troubles de grande ampleur. Le tribunal a néanmoins condamné Mikita à 5 ans d'emprisonnement dans une colonie de redressement pour mineurs, dans laquelle il a été transféré en juin 2021 et où ses conditions de détention sont inhumaines. Lorsqu'il a entendu le verdict, Mikita, désespéré, s'est écrié « Laissez-moi sortir ». Donc on va demander aux autorités de la Biélorussie de libérer Mikita dans l'attente d'un nouveau procès équitable, conforme aux normes relatives à la justice pour mineurs, et d'établir un système de justice pour mineurs conforme aux normes internationales en matière de droits humains. Il y a beaucoup à faire en Biélorussie. On va aussi défendre Imoleayo Adeyeux Mikael du Nigeria, qui est harcelé pour avoir milité contre les violences policières. Lorsque la jeunesse nigériane est descendue dans les rues d'Abuja en octobre 2020, Mikael s'est joint au mouvement. Les manifestants défilaient contre les violences, les extorsions et les exécutions menées par la brigade spéciale de répression des vols, plus connue sous le nom de SARS. Le jeune développeur informatique a relayé les appels à manifester sur Twitter et sur Facebook en utilisant le hashtag viral #EndSARS. 2 semaines plus tard, le 13 novembre, au petit matin, 20 hommes armés ont investi le domicile d'Imoleayo. Ils ont brisé une fenêtre et l'ont menacé avec une arme à feu, le forçant à les laisser entrer. Ces hommes armés étaient des membres armés de la police, de l'armée et des représentants du service de sécurité de l'État. Une fois à l'intérieur, ils ont saisi son téléphone portable et son ordinateur, puis ont enfermé sa mère âgée, son épouse et leur fils de 7 mois dans une pièce avant de couper l'électricité et d'éteindre les lampadaires. Ils ont ensuite emmené Imoleayo au siège des services de sécurité de l'État. Il est resté en détention dans une cellule souterraine pendant 41 jours, sans pouvoir consulter un avocat ou contacter sa famille. On lui a passé des menottes, mis un bandeau sur les yeux et on l'a enchaîné à un meuble de bureau. On l'a également forcé à dormir à même le sol. Il ne recevait pour tout repas qu'un porridge contenant des cailloux. Les officiers des services de sécurité l'ont interrogé à 5 reprises. Il a souffert d'une pneumonie à la suite des nombreuses nuits passées à même le sol. Il a finalement été libéré sous caution en décembre 2020. Il est inculpé de chefs d'accusation sans fondement, tels que conspiration par association en vue de troubler l'ordre public et trouble à l'ordre public. S'il est reconnu coupable, il encourt jusqu'à 3 ans de prison. Donc on va demander aux autorités d'abandonner immédiatement toutes les charges retenues contre lui et de mettre en œuvre les revendications des manifestants et notamment de mettre un terme aux violences policières, d'arrêter les officiers du SARS responsables d'homicides extrajudiciaires, de viols, d'actes de torture et d'extorsion à rendre des comptes, afin de réformer les pratiques de maintien de l'ordre en général au Nigeria. On va se battre aussi pour Siham Ali Ahmed, une érythréenne, victime d'une disparition forcée pour avoir essayé de quitter son pays. Alors, elle est née à Los Angeles et élevée en Érythrée. Elle avait de grands projets. Adolescente, elle était passionnée par le rock et voulait devenir styliste. Mais à 15 ans, ses espoirs ont volé en éclats. Le 8 décembre 2012, Siham a été arrêtée à la frontière avec le Soudan alors qu'elle essayait de fuir l'Érythrée. Son père, Ali Abdou, à l'époque ministre de l'Information sous le régime du président Afwerki, s'était exilé peu avant la tentative du coup d'État militaire contre le gouvernement. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Ali Abdou aurait soutenu le coup d'État et il est possible que Siham ait été arrêté en représailles. 9 ans se sont passés depuis son arrestation et personne, y compris les membres de sa famille, ne sait où Siham est détenue. Elle n'a jamais été inculpée ni présentée à un tribunal. Son cas s'apparente à une disparition forcée, ce qui constitue un crime au regard du droit international. En Érythrée, les disparitions forcées sont une pratique courante de longue date. Des témoignages indiquent que de nombreuses personnes succombent dans les prisons du pays en raison des tortures infligées, de la faim, d'infections ou d'autres traitements épouvantables. À l'heure où les jeunes de son âge prennent par exemple le chemin de l'université, Siham subit les horreurs sans nom. Selon son oncle, ils ont enlevé une enfant qui avait des rêves d'enfant. Concrètement, ils lui ont dit « Nous allons te punir, te mettre en détention et tu passeras la moitié de ta vie en prison. » Bien que Siham possède la nationalité américaine, le gouvernement des États-Unis n'est jamais intervenu. Jusqu'à présent, alors que le pays est en position d'exercer une influence sur l'Érythrée, les autorités gardent le silence face à sa terrible situation. Alors nous allons demander aux autorités américaines d'intervenir dès à présent en faveur de Siham Ali et aux autorités érythréennes de prendre des mesures immédiates en vue de divulguer les informations relatives au sort et à la localisation de Siham Ali et de toutes les personnes victimes de disparitions forcées en Érythrée, de leur garantir un accès à la justice, à la vérité et à des réparations. Nous allons intervenir pour Zhang Zhan, en Chine, qui est emprisonné et torturé pour ses reportages sur le Covid-19. Alors c'était au tout début de l'épidémie, parce que la ville de Wuhan, qui était alors le centre de l'épidémie en Chine, a été confinée. Zhang Zhan faisait partie de quelques journalistes citoyens à s'être rendus sur place pour décrire les évolutions de la crise. Cette ancienne avocate, déterminée à révéler la vérité sur la situation, s'est rendue dans cette ville sous cloche en février 2020. Elle a utilisé les réseaux sociaux pour signaler l'arrestation d'autres journalistes indépendants et le harcèlement exercé par les autorités à l'égard des familles de patients atteints du Covid-19. Les journalistes citoyens constituaient la seule source d'information directe et non censurée au sujet de l'épidémie. Les journalistes citoyens travaillent de manière indépendante par rapport aux médias contrôlés par l'État et de ce fait subissent un harcèlement incessant parce qu'ils mettent en lumière des informations que les autorités préféreraient garder sous silence. Zhang Zhan a été portée disparue en mai 2020 à Wuhan. Les autorités ont par la suite confirmé qu'elle était détenue par la police à Shanghai. En juin 2020, elle a entamé une grève de la faim pour protester contre sa détention. Pour la punir, les autorités carcérales lui ont fait subir des traitements cruels et inhumains en lui entravant les pieds et les mains 24 heures sur 24 pendant 6 mois d'affilée. En décembre 2020, elle était si faible qu'elle a dû assister à l'audience de son procès dans un fauteuil roulant. Le tribunal l'a condamnée à 4 ans d'emprisonnement pour avoir cherché à provoquer des conflits et troubler l'ordre public. Zhang Zhan est en réalité détenue uniquement pour avoir exercé pacifiquement son droit à la liberté d'expression. En mars 2021, elle a été transférée à la prison pour femmes de Shanghai. Les autorités continuent de rejeter les demandes de visite de sa famille. Et le 31 juillet, elle a été hospitalisée en raison d'une grave malnutrition. Nous devrions aspirer à connaître la vérité, à chercher à l'obtenir à n'importe quel prix, a déclaré Zhang Zhan. La vérité est le bien le plus cher qui existe dans ce monde. Hélas, en Chine, on a du mal à avoir la vérité. Donc, on va demander aux autorités chinoises de libérer immédiatement et sans condition Zhang Zhan et dans l'attente de sa libération, de veiller à ce qu'elle soit protégée contre toute forme de torture ou d'autres mauvais traitements et à ce qu'elle ait accès de manière régulière et sans restriction à sa famille, à son avocat, ainsi qu'à une assistance et à des soins médicaux adaptés en prison. Et puis le dernier cas, elle s'appelle Panusaya. Elle est étudiante, elle est poursuivie pour avoir critiqué la monarchie en Thaïlande. Elle risque la prison à vie. Alors, surnommée Rung, elle se décrit comme une personne humble et discrète. Cette étudiante est violoniste, timide, autrefois, mais aujourd'hui elle compte parmi les principales voix du mouvement des jeunes pro-démocratie en Thaïlande. Rink a commencé à s'engager politiquement lors de ses études de sociologie et d'anthropologie à l'université de Bangkok. Elle a participé avec beaucoup de courage aux manifestations en faveur d'un changement social et politique tout au long de l'année 2020. En août, elle figurait parmi les leaders du mouvement de contestation. Devant de milliers de personnes, elle a appelé à l'égalité, à la liberté d'expression, à l'ouverture d'enquêtes sur les disparitions de détracteurs du gouvernement et à une réforme de la monarchie, sujet extrêmement sensible en Thaïlande. Cette action inédite l'a propulsée sur la scène nationale et depuis lors, les autorités la considèrent comme une agitatrice. Accusée de provoquer des troubles, elle a été arrêtée en mars 2021 en vertu de la loi relative aux crimes de lèse-majesté qui interdit toute critique de la monarchie. Elle a été emprisonnée pendant 60 jours et a contracté le Covid-19 pendant sa détention. Les autorités ont refusé sa libération sous caution à 6 reprises. Elle a défié les autorités en entamant une grève de la faim qu'elle a poursuivie pendant 38 jours. Elle a été libérée le 30 avril 2021. Aujourd'hui, elle fait face à des dizaines de chefs d'accusation et risque l'emprisonnement à perpétuité. En Thaïlande, les personnes qui aspirent à une société meilleure sont envoyées en prison, s'insurge Rung. Donc on aura une carte postale à lui envoyer que vous pourrez remplir le 11 décembre si vous venez à la médiathèque. Et vous pourrez donc lui envoyer des messages de solidarité et puis bien sûr signer la pétition demandant d'abandonner toutes les poursuites pénales et de mettre en place des procédures qui protègent davantage les personnes qui expriment publiquement leur opinion contre les détentions et les poursuites arbitraires. Voilà, donc je vous invite vivement à venir samedi 11 de 10h à 17h à la médiathèque de Digne pour venir signer nos pétitions et remplir des cartes d'encouragement, de soutien. Voilà. On va maintenant écouter Escudero dans sa chanson « Garde espoir ».
Garde l'espoir, même aux jours les plus noirs. La vie un jour vient te parler d'amour. Et c'est à toi alors de retenir l'instant de joie qui fait les souvenirs. Garde l'espoir, même aux jours les plus noirs. Et dis-toi bien que même le chagrin, quand il s'efface, on se retrouve nu. C'est ce qui reste du bonheur perdu. La vie chavire du bon au pire selon le vent. Fait carabosse et son carrosse t'oublie souvent. T'as une corde, fous la discorde au bois de Meudon. Suffit d'un geste, mais toi tu restes, la vie c'est bon. Garde l'espoir, même aux jours les plus noirs. La vie un jour vient te parler d'amour. Et c'est à toi alors de retenir l'instant de joie qui fait les souvenirs. Garde l'espoir, même aux jours les plus noirs. Et dis-toi bien que même le chagrin, quand il s'efface, on se retrouve nu. C'est ce qui reste du bonheur perdu. La vie est garce, elle joue la farce du droit divin. Dresse les épaules, choisis le rôle qui te va bien. Joue l'existence de ceux qui pensent mourir demain. Mais dis je t'aime comme un poème qui n'a pas de fin. Garde l'espoir, même aux jours les plus noirs. La vie un jour vient te parler d'amour. Et c'est à toi alors de retenir l'instant de joie qui fait les souvenirs. Garde l'espoir, même aux jours les plus noirs. Et dis-toi bien que même le chagrin, quand il s'efface, on se retrouve nu. C'est ce qui reste du bonheur perdu.
Voilà, c'est cet espoir qui fait que les militants d'Amnesty se battent inlassablement pour la justice. Voilà, alors je vous ai parlé des 10 jours pour signer. Donc, le lundi 6 décembre, on sort au Sacré-Cœur pour rencontrer 5 jeunes de l'opération Servam. C'est une opération pour tous les lycéens. Le lycée leur demande de s'engager dans une association. Et il y en a 5 qui ont choisi Amnesty. Donc, on va leur présenter Amnesty et les 10 jours pour signer et les cas que je vous ai présentés. Le 8 décembre, on sera au lycée Alexandra Davinel dans une classe pour présenter aussi Amnesty et les 10 jours pour signer. Et le jeudi 9 décembre, on sera au Pierre-Gilles de Gênes. Alors, au Pierre-Gilles de Gênes, il y a une antenne jeune d'Amnesty. Ils vont organiser les 10 jours pour signer pendant la durée, à partir du 4 décembre. Mais on ira le jeudi 9 décembre, le groupe d'Amnesty de Digne, pour tenir le stand, notamment quand les jeunes vont à la cantine. Voilà, et ça permet de récolter beaucoup de signatures. Et puis le 11 décembre, je vous rappelle, on sera à la médiathèque de Digne, de 10h à 17h. Venez nombreux signer nos pétitions. Vous pourrez également acheter nos calendriers. Et puis des albums pour enfants qui peuvent faire des cadeaux de Noël, parce que c'est intéressant, parce que ce sont des albums qui traitent de droits humains. Voilà. On a aussi Amnesty, c'est très intéressant de militer dans cette association parce qu'on fait des rencontres extraordinaires. Je vous ai parlé d'Antoinette Chahine qui demain va témoigner dans les lycées, une ancienne prisonnière d'opinion soutenue par Amnesty et libérée grâce à l'action d'Amnesty entre autres. Et on va rencontrer aussi le groupe de Digne va rencontrer Moussa Biram, qui est un ancien prisonnier d'opinion de Mauritanie, qui a été emprisonné pour son action au sein d'un mouvement qui s'appelle IRA, qui est un mouvement de lutte contre l'esclavage, parce que l'esclavage existe toujours en Mauritanie, c'est le pays classé en tête des pays esclavagistes. Donc il a été torturé en prison. Il est resté en prison assez longtemps. On pense qu'ils l'ont tenu en prison le temps que les cicatrices des tortures se fassent. Et puis, il a été soutenu par Amnesty International. On a écrit pour lui. Et sous cette pression, il a été libéré. Alors, il vient en France pour deux raisons. La première, c'est pour avoir une aide psychologique suite aux tortures subies à Marseille. Il y a une association qui s'appelle Osiris qui fait une aide psychologique, un peu comme Primo Levi à Paris, une aide psychologique aux victimes de torture. Et en même temps, il a très envie de témoigner au groupe d'Amnesty sa reconnaissance, son remerciement, parce que bien sûr, il a su que nous sommes intervenus nombreux pour sa libération. Voilà, donc c'est vrai que militer Amnesty, c'est aussi faire des rencontres de personnes extraordinaires et on se sent citoyen du monde, avant tout. Voilà, on va terminer cette émission par une chanson de Cabrel, La Dignité, puisque c'est le nom aussi de notre émission.
Merci Régis et à très bientôt pour la suite de ces droits humains. Merci.
L'homme fort tatoué sur les bras, l'homme faible à son dernier repas, l'homme seul au pied de la croix cherche la dignité. L'homme sage sur le brin de paille, l'homme jeune entre deux batailles, l'homme pauvre sur le vitrail cherche la dignité. Quelqu'un est mort, comment on ne peut pas dire, mais la dignité a été la première à fuir. J'ai parcouru la ville, traversé les cités, couru tant que j'ai pu courir. J'ai cherché en moi, j'ai cherché autour, j'ai cherché la nuit et le jour. J'ai demandé aux flics à chaque carrefour, avez-vous vu la dignité? Au bord du trottoir, l'homme entouré de mille miroirs, tous demandent s'il n'est pas trop tard pour la dignité. L'homme inquiet face au médecin, l'homme qui montre toutes les lignes de sa main. Chacun demande où, quand, combien pour la dignité. J'ai vu ce gars, je ne sais plus sur quelle chaîne. La dignité depuis longtemps avait quitté la scène. Il tentait de rire, mais les rires étaient faux. Le monde applaudissait quand même. Il vendait de l'or à des condamnés, des châteaux forts à des gens paumés. Surtout, il avait vendu en premier sa dignité. Ces enfants qu'on pousse vers les flammes, toutes ces marques au visage des femmes. La moitié du monde réclame plus de dignité. Y a pas de répit, y a pas de repos. Je suis sur la rivière dans ce mauvais bateau. Pendant que tout tremble, j'essaie de lire ton mot sur la dignité. Quelqu'un m'a montré une image et j'ai pensé: la dignité ne s'est jamais laissée photographier. Tu peux changer de monde, les formes, les couleurs, chercher jusqu'au fond du désert. Y a tellement de routes, tellement de ronces, tellement d'ombres où l'on s'enfonce.